À l'occasion du festival Nuit de Flou et de l'exposition Diasporama organisée par l'association Zebra 3 pour son 30e anniversaire, Du Radio propose une émission séquencée en plusieurs plateaux autour des dynamiques et stratégies collectives initiées par les artistes. Victoire Lebars reçoit Michel Affès-Béro et Daniel Colomine, fondateurs du magazine 4 Taxi.
Aujourd'hui, on va se concentrer sur le numéro du printemps 84 qui est simultanément le 9e et le 10e volume du magazine 4 Taxi. Au départ, le projet part d'une forme de souffrance ou d'appel vers l'extérieur. Dans une interview de Thomas Lawson, vous parlez de dromomanie. Vous pouvez, pour situer le projet, nous raconter en quelques mots le début de votre duo et la genèse du projet 4 Taxi.
Quelques mots, oui, sur ce début de 4 Taxi. Donc c'est 78, c'est un moment où on vit à Bordeaux, on s'emmerde. Et le mail art, c'est vraiment une forme de s'échapper de la ville. Donc les tout premiers, c'était 4 villes. Il y avait Bordeaux, Barcelone, Rome et New York. Et on s'est mis en contact avec des artistes qui nous envoyaient des pièces pour le magazine. Et très vite, on a épuisé la formule parce que ça devenait aussi ennuyeux, je veux dire, de voir comment des artistes nous renvoyaient des boulots qui étaient déjà dans des galeries. Enfin, on était dans des formes déjà usées. Et en 80, Daniel part à Berlin et elle y reste un an. Et là, on change la formule et 4 Taxi devient le magazine de la cambrouse internationale.
Et c'est là que je suis parti donc à Berlin et avec une bourse d'artiste. Et j'avais comme désir de faire un travail dont le sujet était la ville et la forme une revue. Et au-delà de ça, j'ai vite rencontré Kippenberger, qui habitait Berlin, qui vivait à Berlin, qui avait déjà une belle équipe, un lieu d'artistes. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, et c'était la ville comme atelier. Donc on considérait ça comme étant l'atelier et ça a vite été comme ça pour Los Angeles aussi.
Juste un mot sur l'idée de... Enfin, si, nous sommes des adeptes du crossover. C'est vraiment coupe à travers champ. Et il n'y a rien de plus emmerdant que le découpage art plastique, musique, art contemporain. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, littérature, tout ça. Donc l'approche, elle est individuelle, hein, puisque Danielle était à Berlin, elle était toute seule à l'époque. Mais c'est son histoire, son trip, comment elle rencontre, de rencontre... Enfin, c'est ça, c'est des rebonds constants entre un artiste, un concert, un écrivain, tout ça. Et c'est cette mixture qui devient le magazine. Et à chaque fois, on a comme ça construit, on a scénarisé des numéros où la forme changeait, la qualité du papier, la typo et tout ça. Mais le fil conducteur, c'était cette approche idiosyncratique, hein, comment on digère ces différentes rencontres et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà.
Donc au-delà du magazine, évidemment, c'est de se trouver un travail quand c'est à Los Angeles, c'est vraiment un séjour, un visa de séjour, donc il faut dégoter un travail, il faut trouver habiter quelque part, et donc c'est une aventure en fait, et ça va au-delà effectivement d'une édition pure et simple. Donc il y a toute cette dimension-là que l'on ne voit pas évidemment dans le magazine.
4 Taxi, c'est aussi la volonté de rencontrer des gens. Est-ce que d'une certaine manière, c'est créer aussi une communauté ?
Je dirais pas communauté, moi je dirais collectif. Parce que communauté, c'est tout de suite, il y a une connotation d'unité, je ne sais sous quelle bannière. Mais ce qui est intéressant dans le collectif, c'est justement la forme hétérogène. Hein. C'est un ensemble de personnes qui bossent ensemble, mais qui ne sont pas forcément d'accord sur une espèce de hiérarchie ou de je ne sais quoi. Nous, l'histoire de 4 Taxi s'est faite avec des artistes. C'est-à-dire, si on regarde par exemple ce numéro Los Angeles, au verso, il y a écrit, bon, il y a les lieux où on le trouve, mais il y a ici aussi écrit by, about. Hein, cette idée de par et au sujet d'eux. C'est-à-dire, il y a une espèce de mixture qui se construit avec les différentes personnes qu'on a rencontrées. Mais on n'est pas dans cette espèce de. Comment dire, de segmentation infernale, quoi.
Ouais. C'était aussi un très bon moyen de rencontrer des gens de fait quand on fait un magazine et qu'on est dans une ville, on rencontre facilement déjà par rapport à ça, donc des propositions d'interview, Et voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment un bon moyen de rencontrer des gens. Et c'est pas un hasard si on a pensé à cette forme-là pour sortir justement de l'atelier et aller dans la ville.
Dès le numéro 2, je veux dire, qui s'appelle Parfums de New York, en fait, à partir du 1, c'était une carte de visite. On a été voir donc une fille qui s'appelait Edith Deac. Pour nous, c'était pas un modèle, mais un travail qui existait déjà dans les années 70. Elle faisait un magazine qui s'appelait Arthrite. C'est vraiment un truc. Enfin, j'emploie ce mot séminal qui est très à la mode maintenant, mais vraiment, ils inventaient quelque chose avec son ami. Et c'était un magazine qui était fait à Soho, à Manhattan, et qui était uniquement des contributions d'artistes entre eux. C'est-à-dire qu'ils bossaient d'une manière. Alors, c'est là où on est dans cette espèce de va-et-vient entre. Ça allait de Fluxus au Minimal Art. Enfin, il y avait vraiment des rencontres comme ça, vraiment improbables, entre des artistes qui n'étaient pas comme ça mis dans des petites boîtes trop faciles à catégoriser. Edith Deac, elle est devenue notre correspondante à New York. Et c'était déterminant parce qu'après le numéro 3, je crois, ou 2, pardon, 2, oui, c'est elle qui nous a envoyé du matériel de New York, d'artistes. De cette fin des années 70.
Qui était vraiment une période où beaucoup d'artistes faisaient des livres, des magazines, des revues, des lieux, des groupes de musique, du design. Enfin, c'était vraiment très transversal à ce moment-là.
Mais il y a quelque chose aussi du côté de Cat Taxi, enfin, c'est le magazine de la Cambrousse internationale, mais est-ce qu'il n'y a pas justement une espèce de transversalité avec la revue d'art aussi, enfin, peut-être maintenant où...
Ce qui était drôle, c'est que je prends l'exemple des foires de l'art, par exemple. On était invité à Arco ou à Bâle en échange d'une publicité qui était absolument ridicule, puisqu'on tirait, je sais pas, 500 exemplaires ou 2000.
Mais on mettait une photocopie.
Voilà, ça avait même aucun sens en termes de négociation, de business. Mais on avait un stand. Hein, à l'époque, et on voyait Art Forum, je sais plus, Flash
General
Art,
ID,
General ID, File, et puis Cat Taxi, ça, j'ai au même niveau. Ce qui était vraiment, quand on repense à ça, ça fait rire, quoi. Et aujourd'hui, maintenant, c'est totalement segmenté. Vous avez d'un côté, on connaît la chanson. Donc Cat Taxi, on se décalait. Vraiment, cette idée de Cambrousse International, c'est l'idée de se déplacer et de décentrer les choses. Hein. Mais évidemment qu'à Los Angeles, il y a une Cambrousse. Et on l'a rencontrée, d'une certaine manière. On les a cherchées.
Est-ce qu'on peut raconter, d'ailleurs, pour les auditeurs et le public ici, qui a accès au magazine, pour le coup, mais pour les auditeurs, les textes ou les rencontres qu'il y a à l'intérieur de ce magazine Los Angeles.
Prenons l'exemple de Los Angeles. Donc, en couverture, qu'est-ce qu'on a ? Une photo prise dans la rue, hein, c'était Gower Street.
Je revenais du travail parce que j'étais enseignante au lycée français, enseignante d'art au lycée français de Los Angeles. Donc je revenais du travail et c'est à travers le pare-brise. Hein, donc c'est vraiment. Je traversais la ville du nord au sud tous les jours pour aller bosser. Et après, Michel est venu me retrouver quelques mois où on a travaillé sur le magazine vraiment. Donc c'est vraiment le quotidien.
Le quotidien est tellement. Enfin, ça va contre le sens classique de l'image qu'on a d'Hollywood avec ces génériques de télé et tout ça. Là, on voit Hollywood encore 4 ou 5 qui apparaissent sur les collines et tout le sommaire joue. Enfin, c'est l'approche visuelle, comment ça fatigue. Cette ville fatiguait l'œil et c'est tout le scénario même de ce numéro, c'est de travailler sur des typographies dissonantes et restituer une espèce de stress visuel. Et l'autre idée, ce qui était un peu gonflé à Hollywood, c'était de scénariser le numéro, vraiment comme on ferait un script, où on part du désert, la double page du sommaire. C'est une image du désert à Joshua Tree, qui est à 2 heures de LA, avec un centre culturel qui s'appelle High Desert Cultural Center, qui apparaît un peu comme un décor dans ce désert. Et c'est ce qui nous a excités, c'est cette idée que... c'est pas loin de ce désert. Et ça risque d'y revenir un jour. Mais pour l'instant, disons qu'on part du désert et progressivement, on entre dans la ville par une histoire, une espèce de fait divers monstrueux où il y a un coyote qui boulotte un gamin. Mais en même temps, il traverse le freeway. C'est-à-dire, on a cette espèce de vision cinétique, là, parce que je parle de l'aspect visuel, de la maquette, où on voit, quand on tourne les pages, on voit ce coyote qui traverse le freeway. Et la page d'après, bingo, on rentre chez un designer qui s'appelle Paul Fortune Fearon et qui a créé un lit tremblement de terre. Alors là, on est dans une sophistication qui aujourd'hui paraît presque peut-être absurde. On voit des rochers et un lit qui se casse la gueule.
Des rochers coussins.
Ouais. Oui, des rochers coussins. Très bonne remarque. Voilà, et donc, tout le numéro, il est pensé vraiment comme une approche scénarisée. On retrouve, après, on a une longue interview de Russ Meyer. Russ Meyer, qui est un cinéaste un peu sulfureux. Je veux dire, mais il ne faut quand même pas oublier que c'est le cinéaste qui a mis en scène des filles qui se battaient et qui foutaient des torgnoles à plein de mecs. Aujourd'hui, ça fait sens, mais à l'époque, c'était un cinéma pour camionneurs. Hein, vraiment, c'était une niche. Et ça, par exemple, c'est Kippenberger qui t'en avait parlé,
Daniel. Oui, c'est ça, c'est tout à fait.
Il dit, si vous allez voir Russ Meyer. Et on a fait une interview qui a duré des plombes, où on parlait mal anglais. Enfin, cette idée aussi de la maladresse et du culot, hein, c'est un peu ça. Il y a des intuitions, mais en même temps, on y va, on fonce et on voit ce qui se passe. Bon, des fois, ça marche bien, des fois, c'est foireux. Mais on a construit quelque chose avec ça.
Il y a un lexique aussi qui s'est dessiné, non, à travers la revue. Enfin, je pense notamment au terme boondocks ou international boondocks.
Oui.
Donc, je pense que ça vient de là aussi, le magazine de la Cambrousse internationale.
Oui.
Vous êtes tous les deux, vous êtes rencontrés à Bordeaux, mais Daniel, vous êtes tu es originaire des Pyrénées et Michel de Dordogne. Est-ce que vos origines, enfin les lieux d'origine, ont déterminé la mise en place d'un travail itinérant aussi? Parce que j'ai l'impression que quand on vient de la campagne, on veut foutre le camp et puis en fait, ça nous est toujours collé à la peau. Ouais.
Oui, bien sûr. Donc c'est pas vraiment la campagne en ce qui me concerne, c'est une petite ville, mais c'est Tarbes, hein. Je sais pas si tout le monde connaît, au pied des Pyrénées, et c'est à Tarbes, quand on grandit, on veut partir. Mais quand je suis arrivé à Bordeaux aussi, j'ai voulu partir de Bordeaux, donc c'est sans arrêt changer et bouger et fuir une espèce de destin préétabli que finalement on a eu une expérience de rêve, quoi. Enfin, c'est parce qu'il y a aussi cet atelier Pensée Nomade que l'on a créé, donc.
Et qui Pensée était... Nomade, choses imprimées.
Pensée Nomade, choses imprimées. Ouais.
Qui est né de l'expérience de Cataxi.
Et qui est né vraiment de cette expérience, cette envie de ne pas pouvoir enseigner quand c'est une routine, quand c'est ennuyeux, quand il se passe rien. Et ça suffit pas, je sais, de partir quelque part, mais c'est quand même extrêmement important, changement de perspective. Et puis toujours pareil, d'imaginer une ville comme un atelier et avec toutes les possibilités de cette ville, de rencontres, etc.
Et puis il y a eu des rencontres qui ont été aussi exceptionnelles. Je pense à Ed Ruscher,
Bien sûr. Bon, les artistes, ils pigent très vite, en fait, cette manière de travailler, hein, de collaboration. Et ils sont d'autant plus, je dirais, connus que, enfin, il y a une sensibilité qui est partagée, donc ça va très vite. Et Ruscher, par exemple, à l'inverse des magazines qui parlent de l'actualité et toutes ces histoires mensuelles. Avec lui, on a parlé de country music, parce qu'il vient d'Oklahoma, enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment des sources de musique country, et donc l'interview parle de ça, et d'une architecture aussi de LA, une architecture vernaculaire qui est un peu, aussi son fond, je dirais, de travail, l'usage des mots aussi, hein. Mais surtout, ce qui est passionnant, c'est qu'il a fait une pièce pour le magazine qui est unique. Enfin, je veux dire, elle existe à 2000 exemplaires. Bon, aujourd'hui, Ruscher, il a une expo au MoMA jusqu'en janvier, qui est un énorme truc, une espèce de... Bon,
à partir de janvier.
Ouais, 6 décennies de travail. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce rapport à... Comment dire, à on coupe à travers champs, vraiment. Le champ de l'art spécifique, et effectivement, l'art... on connaît toute cette chanson de Greenberg, et tout ça. On se fout toutes ces histoires, et on se fout aussi de la question, je dirais, du fétiche et de la numérotation des magazines et tout ça. Et aujourd'hui, il y a un trip, mais absolument énervant pour nous, qui est cette idée de numéroter ces boulots, d'en faire 150, comme on a fait là, 120, mais bon, ils sont pas numérotés, je vous rassure. Et alors, on joue avec nos contradictions. C'est-à-dire, évidemment, qu'on c'est un objet rare, mais on ne le décrète pas. On ne dit pas collector, courez à la boutique. Un collector, ça ne se décrète pas, ça le devient. Mais ce n'est jamais toi qui désigne ce qu'est un collector. Et par exemple, dans le numéro 2 qu'avait fait Edith Dehac, on avait publié une étiquette de vin qu'avait fait Andy Warhol. Et on avait changé le papier. Ouais, estampillé avec le culot d'une bouteille et de pinard à 2 balles. Et en même temps, on en a fait aussi 100 exemplaires, je crois, avec du Mouchon Rothschild. Mais le prix était le même. Et on n'a pas écrit collector nulle part. On s'en fout et je dirais qu'on travaille avec ces contradictions.
Un autre personnage important, c'est Steve Samioff, qu'on a rencontré, qui lui est justement vraiment difficile à... son profil étant tellement compliqué, tellement flou, il était curateur, il avait justement un espace, il a pompier, faisait visiter Los Angeles avec sa moto à ses amis.
Il a créé Slash
et Stuff Magazine, qui est un magazine punk avec Claude
Bessy, ouais, qui était un Français d'ailleurs, mais qui n'était plus là au moment où on y était. Mais disons qu'on est arrivé juste après la vague punk, et c'est vrai que ça a dessiné les contours du magazine. Hein. Alors moi, j'étais plutôt dans des histoires de rock 50s, tout ça, donc du coup, des rencontres autour de Ritchie Valens, enfin, tout le rock chicano, tout ça qui n'était pas encore sorti, c'était encore très segmenté. Et on a trouvé un producteur qui s'appelait Bob Keane, qui était vraiment un type qui a publié les premiers trucs de Zappa, mais en même temps de Ritchie Valens, Bobby Fuller, enfin, des gens passionnants. Et voilà, bon, il y avait cette fascination un peu pour les 50s, mais le punk a déboulé quelques années avant, et là, ça changeait tout. Nous, on habitait à 2 pas des clubs et tout ça. Donc, il y avait une scène... dont Steve a été un des acteurs importants, mais il y avait aussi Melanie Nissen. Enfin, aujourd'hui, maintenant, il y a des gros bouquins sur Slash, vous allez trouver toute une littérature autour de ça. Mais là, c'était vraiment à 2 pas, et c'était la nuit, et ça bougeait tous les soirs.
Et moi, je m'interrogeais sur la distribution de Cataxi, comment c'était distribué. Enfin, parce que il y avait, quand je regardais le magazine, je me disais qu'il y avait donc cette... Enfin, que j'avais du mal à nommer magazine, enfin, parce qu'on pouvait aujourd'hui peut-être être proche aussi d'une revue d'art, et qu'il y a toute une histoire de la distribution des revues d'art aussi, à un moment soit dans des lieux spécialisés, soit dans des galeries, soit dans des kiosques aussi, donc plutôt qui se rapprochent de la presse. Comment vous faisiez circuler le magazine Cataxi ?
Le kiosque, c'était exclu, parce que ça passe par les NMPP, enfin vous connaissez un peu cette histoire. Non, on faisait des dépôts. Hein. Si on regarde le dos du numéro Los Angeles, où trouver Cataxi ? On le trouvait à Barcelone, il y a 3 points, à Berlin, à Londres, à Madrid, en différentes villes comme ça, Venise même, je vois. Bon, en fait, c'était des dépôts, comme ça, on se pointait avec 10 numéros. Et en fait, c'était très foireux, parce qu'il fallait revenir pour chercher le fric, tout ça. Et on n'avait pas les moyens. Donc, il y a toute une... au début, on avait trouvé un diffuseur qui s'appelait Argon Diffusion, qui était vraiment le tout premier... distributeur de revues d'art, d'artistes, au tout début années 70. Puis après, ça a été foireux parce qu'on n'est pas sérieux en termes vraiment de... C'est un vrai travail, hein, la distribution.
Et la difficulté aussi, c'est que ce n'est pas vraiment une revue d'art ni un catalogue d'art. Enfin, ça peut le ressembler pour quelques numéros, mais pas vraiment, sur quelques pages en tout cas. Mais ce n'est vraiment pas ça, c'est... ça parle de banque, ça parle de tas de choses qui concernent pas le milieu proprement dit. Donc on peut pas parler de catalogue d'art. Mais...
Et d'un point de vue du nombre d'exemplaires, il n'y avait pas un nombre d'exemplaires qui était défini à chaque fois pour chaque numéro.
Oui, mais ça changeait. C'est-à-dire le LA, il a été tiré à 2000 exemplaires, ce qui était énorme. Hein. On a mis plusieurs années pour le payer.
C'est celui qui a été tiré en plus
grand
nombre.
Le plus grand nombre. Mais je veux dire, il y a un numéro c'est A Bar a Day, qui était un bar... Pour chaque jour autour du monde, on a tiré 50 exemplaires en photocopie. Je veux dire, et c'est fastidieux, c'était un truc infernal, une page par jour.
C'est la forme qui détermine vraiment le tirage.
Oui. Et comment dire, il n'y a pas de modèle, de blueprint établi. Hein. Chaque ville génère d'une certaine manière une forme. Et voilà.
vu le nombre de Gataxi Los Angeles qui reste, on a donc réactivé ce numéro justement pour pouvoir l'écouler. Et parce que finalement, il devient le numéro 25 et ça n'est un autre. Parce que 40 ans après, on ne peut pas lire le magazine de la même manière. Et il y a eu ce coup de vent qui font que tout a été chamboulé et c'est un nouveau numéro qui sort.
Un coup de vent du désert hein, qui a soufflé le sommaire, qui a déglingué le sommaire et qui devient la nouvelle couverture du magazine.
La jaquette.
Bon, voilà, c'est juste une jaquette. Et donc, si vous achetez ce magazine qui coûte 25 euros, et pour le spéculateur qui sommeille en vous, je vous conseille vraiment de l'acheter parce qu'il y a cette pièce de Rouchet qui va...
Oui, pas seulement.
Faire des bons. Hein. Non, mais je plaisante. Mais vous voyez les contradictions à laquelle on travaille. Donc, ce numéro, il y a cette idée que le temps passé est devant vous.
Devant nous ?
Oui, devant vous et nous. C'est-à-dire, celui qui le lit, tout d'un coup, il est projeté dans un espace-temps qui est une autre temporalité. Et ça, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, cette notion du temps linéaire, alors on a décennie 80, 60, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ce temps qui est mesuré comme ça d'une manière logique, il est foutu à la poubelle depuis déjà plusieurs années. Écoutez de la musique aujourd'hui, il y a des trucs qui sont pompés chez James Brown, un truc de musique répétitive ou des choses de la semaine dernière. Il n'y a plus de temporalité aussi simpliste que 1970, 1980, on n'est plus là. Donc ce qui est intéressant dans cette idée du temps passé devant vous, c'est que tout d'un coup, vous faites un trip, évidemment, avec vos yeux de 2023, à L.A. en 1984. Aussi, on a été prof aux Beaux-Arts, on a créé cet atelier nomade. Et je voulais dire que l'art peut être le sujet de l'éducation, mais l'éducation elle-même peut être une forme d'art. Well, everybody's heard about the bird.
I do.